Bien, alors bonsoir. Donc, si vous voulez, on va continuer ce qu'on a vu la fois précédente. Donc, c'était sur les opiacés, c'est-à-dire les dérivés de l'opium, qui sont des stupéfiants. Donc, ça a permis un petit peu de définir ce que c'était que les stupéfiants, c'est-à-dire des substances chimiques qui engendrent une tolérance et une dépendance, essentiellement. Donc, pendant longtemps, on parlait de toxicomanie, et puis progressivement, on a commencé à parler de substances qui donnaient des dépendances. Donc, c'est une autre façon de l'approcher. Et puis, la façon récente, c'est de parler d'addiction, plutôt. Donc, on va passer en balayer un petit peu ces trois notions. Donc, les opiacés, donc non seulement les dérivés de l'opium, mais également, j'ai un tout petit peu dit quelques éléments, sur les dérivés de la coca. Donc, la cocaïne et le crack, qui ont d'autres propriétés, mais qui sont aussi des stupéfiants, et des stupéfiants assez féroces. Donc, l'un comme l'autre, opiacés et dérivés de la coca, ont des applications médicales. Et donc, du coup, c'est toujours une ambivalence. Mais on va essayer d'approfondir cette question un petit peu plus tard. Alors, aujourd'hui, c'est la suite, mais avec des substances chimiques qui sont apparentées aux opiacés, mais qui ont une caractéristique, c'est d'agir de la même façon que les opiacés, mais ils n'ont rien à voir avec les opiacés. C'est-à-dire, ils ne dérivent pas du tout de l'opium. Les uns sont naturels et les autres sont synthétiques. Voilà, donc, si vous voulez, on va surtout s'acharner sur les substances naturelles aujourd'hui. Donc, comme c'est une forme de substance chimique qui s'apparente aux opiacés, on les appelle pas opiacés, on les appelle opioïdes. Oïde veut dire qui a la forme des dérivés de l'opium, en quelque sorte. C'est-à-dire des substances qui vont donner les mêmes effets que les opiacés. C'est ça la définition. Donc, opiacés naturels pour aujourd'hui. Et puis, quand on verra un petit peu certains médicaments, c'est opiacés synthétiques, si vous voulez. Et puis, demain, donc, on se retrouve, si vous voulez bien, et puis on va continuer la question des addictions, mais cette fois, ce sont de nouvelles formes d'addiction qui sont déjà anciennes, bien entendu, mais qu'on a pu conceptualiser plus récemment. Et on s'est aperçu qu'il y avait des addictions avec des substances chimiques, celles dont on parle, hein, les opiacés ou les dérivés de la coca, mais qu'il y avait des addictions qui n'avaient rien à voir avec les substances chimiques. Et il y a beaucoup de parentés, et donc ce sont en fin de compte des comportements, certains comportements qu'on va appeler addictifs. Alors c'est pour ça que j'ai mis cette fois addiction avec un S, en pensant addiction par les substances chimiques, et puis addiction par certains comportements que vous connaissez de toute façon. Très bien, en fait. Et puis enfin, la semaine prochaine, le mardi encore, on se retrouve pour une dernière fois, où là, on va parler un petit peu de la question de la douleur, de un petit peu comment on peut estomper la douleur. Bien entendu, dans certaines maladies très douloureuses, mais aussi dans le cas des addictions, c'est-à-dire des addictions avec substances chimiques qui entraînent les problèmes de sevrage que j'ai un petit peu évoqué et qui amènent justement des souffrances physiques et psychiques. Et que donc, pour pouvoir sortir de cet état, il est possible d'utiliser encore une fois des médicaments, cette fois des substances en quelque sorte. Et puis enfin, troisième volet, qui est toujours très en débat, toujours très épineux, c'est la question de la fin de vie, où là, l'existence elle-même est très douloureuse. Et donc là se pose la question de comment accompagner les mourants. Est-ce que ce sont des soins palliatifs ou bien est-ce qu'on peut appliquer une euthanasie ou autre? Voilà, là il y a beaucoup de questions à soulever là encore pour pouvoir reboucler sur l'ensemble de ces conférences stupéfiants et addictions en quelque sorte. Donc voilà, pour aujourd'hui donc on va se centrer sur les opioïdes. Donc si vous voulez, pour comprendre les opioïdes, on a trois questions à se poser. Donc, finalement, quelle est l'action de la morphine, finalement? Puis ensuite, qu'est-ce qu'il en est du centre du plaisir et du centre de la douleur? Et puis enfin, pour boucler là aussi sur le point de départ, quel est l'effet des stupéfiants? Donc là, je l'appelle déjà effet pervers, les effets pervers des stupéfiants qui modifient complètement le fonctionnement du cerveau du sujet lui-même. Et que donc, du coup, d'un sujet sain, en très peu de temps, relativement, ça dépend des usages qui sont faits des stupéfiants, en très peu de temps, on peut devenir malade. Voilà. Et donc, là, c'est la vision de l'addictologie, la science des addictions, qui traite les sujets comme des sujets malades. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que l'on avait avant, des toxicomanies, où il y avait plutôt quelque chose de l'ordre du vice, ou quelque chose du malin, je ne sais quoi, enfin, qui était hérité de la psychiatrie de l'époque de Pinel, on va dire, hein, ou de Kraepelin, je ne sais plus très bien. Puis ensuite, les toxico-dépendants, on a déjà un peu assoupli, en disant, c'est pas sa faute, c'est la faute de la substance. Puis maintenant, c'est une autre vision avec les addictions. Donc, quelle est la question de la morphine, finalement? On a vu que la morphine donnait un grand nombre d'effets sur le cerveau, et donc modifiait complètement l'esprit, en quelque sorte, hein, les fonctions mentales. Et donc, dans les années 70, tout début des années 70, on a commencé à se dire, mais comment se fait-il que la morphine agit sur le cerveau? Parce que, effectivement, la morphine n'est pas... Enfin, les humains, plus exactement, ne sont pas coutumiers de la morphine, quoi. Au cours de l'évolution, on sait que les animaux ne vont guère brouter le pavot, en gros, hein. Même les herbivores se détournent, c'est d'abord très amer, etc. Enfin, bon, donc du coup, on dit, mais pourquoi ça peut agir? Et alors à ce moment, la première réponse qui venait tout de suite, c'était ce qu'enseignait la pharmacologie, c'est-à-dire l'étude des substances chimiques, les poisons, ou bien les remèdes, comme vous voulez, pharmacon, eh bien, toute cette discipline qu'on appelle la pharmacologie enseigne qu'une substance ne peut agir sur un organisme qu'à une seule condition, c'est qu'il existe un récepteur à cette substance. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, assez vite, quelle est l'action de la morphine? On en venait à se dire... la morphine doit agir sur un récepteur du cerveau, un récepteur cérébral. Voilà. C'est-à-dire, et donc, tout de suite, une fois qu'on a un récepteur, s'il y a un récepteur, tout de suite, ça implique qu'il y a une molécule à l'intérieur du cerveau. Alors, à ce moment, quand on a une molécule sécrétée par le cerveau, on dit que c'est une molécule endogène qui a été fabriquée à l'intérieur de l'organisme. Et que donc, peu à peu, les idées en 70, 71, 72 ont été dans les cercles de neurobiologie, c'est que probablement le cerveau fonctionne avec des molécules, qui sont donc, si vous voulez, des messagers chimiques ou des hormones, et qui se trouvent que ça a un rapport avec la morphine, et que la morphine a quelque chose d'un analogue structural qui permet de venir dans ce récepteur. Alors, la question de la substance qui agit sur un récepteur, c'est le même problème que la question de la clé de la serrure. Voilà, vous savez qu'avec des serrures, il faut avoir une clé pour pouvoir faire jouer le mécanisme, et que dans les hôtels, on a finalement un pass, comme vous savez, et qu'avec un pass, on peut faire jouer une multitude de serrures. Voilà, alors, certaines molécules externes, qu'on va appeler exogènes, ont peut-être cette propriété de venir dans un récepteur d'une molécule endogène et faire jouer le mécanisme à la manière d'un pass. Voilà, c'est cette question-là qui a été prise au sérieux par deux équipes différentes, l'une aux États-Unis par Salomon Snyder et l'autre en Écosse par John Hughes. Et donc, c'est cette histoire que je veux vous raconter d'abord. Et ça, la découverte des récepteurs de la morphine et puis des morphines endogènes en quelque sorte, hein, des molécules endogènes qui jouent le rôle de la morphine, eh bien c'est 1973 à Aberdeen donc. Alors, le deuxième point, pour comprendre comment les opiacés, les opioïdes peuvent donner du plaisir et puis entraîner beaucoup de déplaisir, pour pas dire une spirale infernale qui peut entraîner la mort, en quelque sorte, l'overdose étant l'exemple le plus caractéristique, il faut remonter un peu avant, 20 ans au précédent, sur une série d'expérimentations qui ont eu lieu en 1954. Et là, les deux auteurs, c'est James Holtz et Peter Milner, qui en 1954 ont fait la découverte d'un centre assez extraordinaire, comme je vous racontais l'histoire, qu'on peut déjà dire, ils ont identifié un centre du plaisir. Et puis, comme toujours, il y a des équipes qui ne croient pas, qui refont les manips et qui trouvent rigoureusement les mêmes choses, et puis d'autres qui trouvent rien du tout de semblable. La seule différence, c'est que les électrodes ne sont pas au même endroit, et donc, bien entendu, à force de chercher, en déplaçant les électrodes de stimulation, on a découvert que certaines zones étaient complètement neutres par rapport au plaisir, d'autres donnaient un plaisir extravagant, et puis d'autres, au contraire, inversement, donnaient une nociception, c'est-à-dire qui générait des douleurs épouvantables chez l'animal, donc, mais bien entendu, très vite, on a compris qu'il en allait de même chez les humains, bien sûr. Et puis, ces deux histoires que je vais essayer de vous raconter, et puis enfin, en guise de conclusion, on va voir un petit peu dresser les effets des stupéfiants pour un petit peu préparer la suite des addictions. Alors, voyons d'abord donc la première question. Donc, comment se fait-il que la morphine, qui n'a rien à voir avec le système nerveux, puisse agir sur ce système nerveux, sur ce cerveau? Eh bien, voilà, donc, dans le laboratoire de Hans Kosterlitz, il y a un jeune doctorant qui s'appelle John Hughes et qui est passionné par ce que l'on appelle à l'époque les hormones hypophysaire, c'est-à-dire l'hypophyse, c'est une petite glande, on va dire endocrine pour faire simple, qui se trouve à la base du cerveau, donc facile à accéder, et surtout qui sécrète des hormones, même si ce ne sont pas tout à fait des hormones, enfin bon, des précurseurs des hormones, et qui se diffusent dans le sang. Donc, on sait que c'est du système nerveux, mais en même temps, on peut étudier les molécules par des prises de sang, tout simplement. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à étudier les messagers chimiques dans le cerveau. Et là, on vient de faire une multitude de découvertes, puisque c'est tout le système endocrinien qui a été découvert dans les années 60. Donc, John Hughes se passionne pour ces questions messagers chimiques qui sont libérés qui par l'hypothalamus et surtout par l'hypophyse, qui se répandent dans le sang, et en croisant avec cette question de l'action de la morphine, il se dit, ben, je vais essayer dans ma thèse d'isoler ces hormones hypophysaires qui seraient de bons candidats pour en quelque sorte expliquer l'action de la morphine. Et il se trouve que juste à ce moment, Salomon Snyder a publié ses travaux sur les récepteurs de la morphine. Alors bien entendu, ça l'encourage à dire, bon ben s'il y a des récepteurs de la morphine dans le cerveau, on sait qu'il y en a une concentration extraordinaire dans l'hypophyse et dans l'hypothalamus, eh bien moi, si je prends l'hypophyse et l'hypothalamus des animaux que je vais pouvoir trouver, je vais pouvoir extraire des substances, et on a un certain nombre de critères pour dire si ça a un effet qui mime la morphine ou pas. Alors, l'animal en question qui est pris, c'est un gros animal qui est très disponible, puisque c'est la matière première, on dit maintenant le matériau, si j'ai bien compris, non, le minerai, le minerai pour faire du bacon, et donc forcément on n'en manque pas, en tout cas à Bordine il y a un abattoir qui est d'accord pour lui fournir deux ou trois têtes de porc tous les jours. Voilà. Alors il part avec son petit vélo et puis tac, il accroche ses têtes de porc et il rentre au labo. Et une fois arrivé au labo, ben, il fait la dissection et il récupère l'hypophyse et l'hypothalamus du porc. Et puis ben, il stocke parce qu'il faut une grande quantité, d'après les échantillons, il y a quelques microgrammes qui se baladent dans le sang, donc il lui faut un an pour arriver à avoir une petite marmite pleine de molécules putatives, et donc il essaye de les purifier, enfin de les isoler, puis les purifier, mais avant, chaque fois qu'il fait des sauces, hein, je vous parle un peu de ce qu'on fait dans les labos, ben, il pratique des tests. Et pour savoir si les substances qu'il a pu isoler ressemblent à la morphine, eh bien on a un test très simple. On prend les cobayes, et puis on prend le tube digestif du cobaye, qui s'appelle l'ilion, et donc c'est un petit bout de muscle lisse, finalement, qu'on met entre deux épingles, en gros, et puis on met la sauce, la substance dedans, et quand on met de la morphine, ça provoque une contraction du tube digestif. Alors donc, pour savoir s'il prend la fraction ou s'il ne la prend pas, ben il en prend une micro-goutte, puis il met sur son dispositif, et à ce moment, ben, assez souvent, il a la contraction en question. Donc, je vous montrerai l'image, hein. Donc forcément, là, ça lui permet de dire, bon, ben ça, je le garde, et puis il continue à en quelque sorte, faire des fractions. Au bout d'une année de travail, donc, il a finalement quelques, on va dire, 1 mg de sauce qui est assez concentrée, et là, finalement, il s'aperçoit, quand il fait des analyses, ces substances qui marchent, qui reproduisent les effets de la morphine, eh bien, quand on fait l'analyse chimique, cette fois, on s'aperçoit que ce sont des neuropeptides. Voilà. C'est-à-dire, dans son bouillon, il a des peptides. Alors, peut-être que vous n'êtes pas familier avec ce terme. Peptide, ça veut dire acide aminé. Et donc, neuropeptide, ça veut dire que ce sont une succession d'acides aminés qui sont combinés pour faire une petite protéine, si vous voulez, c'est pareil, hein, peptide ou petite protéine, c'est la même chose. Donc, des peptides qui sont produits par le cerveau. Et donc, comme elles reproduisent les effets de la morphine, eh ben, il a trouvé le nom très facilement. Ce sont des morphines endogènes. Donc en anglais, ça doit donner l'inverse, hein, il suffit de renverser. Donc ce sont des endomorphines. Voilà, et donc il est très content parce que il va peut-être avoir un prix Nobel, quoi, hein, un jour ou l'autre. Hein. crois qu'il ne l'a pas eu, mais il aurait pu, hein. Il aurait dû, hein, c'est sûr. Donc, ces neuropeptides, qui sont encore un peu hypothétiques, sont endogènes et viennent, en quelque sorte, saturer le récepteur mu, comme on l'a vu la semaine dernière, le récepteur mu, mu comme morphine. Hein, voilà, c'est le récepteur de la morphine. Alors après, on a découvert qu'il y en avait plusieurs, hein, au moins trois grandes familles, et puis chacun est pourvu de variantes. Donc ça donne mu1, mu2, mu3, et puis delta, delta1, delta2, delta3, et puis kappa, kappa1, kappa2, kappa3, bon, etc. Hein, il y a de quoi faire, mais celui qui est déterminant par rapport à notre option de dire comment la morphine peut-elle agir, c'est un récepteur qu'on appelle mu, la lettre grecque en quelque sorte, hein, comme M de la morphine. Et donc, il est content parce qu'il a trouvé le neuropeptide, un neuropeptide ou une bande de neuropeptides endogènes qui peut saturer le récepteur mu. Alors, à ce moment, il affine et puis il s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de substances différentes, hein, parce qu'à cette époque, on peut quand même facilement faire des chromatographies en phase gazeuse, en l'occurrence, enfin, moi je le faisais à Rond-Poulenc en 60, donc en 70, bon, un labo de biochimie est bien équipé, il y a aucun doute que très vite il s'aperçoit qu'il a finalement une collection de neuropeptides, quoi, hein, et celui qu'il arrive à isoler, c'est une endomorphine, donc une morphine endogène. Et là, il s'aperçoit qu'il y en a toute une flopée, là aussi. Alors, il leur met des indices, alpha, bêta, gamma, et delta et toute la sainte famille. Et celle qui marche vraiment très très bien, c'est celle qui est la plus célèbre, c'est la bêta-endorphine. Voilà. Alors, quand il fait les tests, il s'aperçoit qu'il y a un petit problème. Parce que la bêta-endorphine, bien sûr, elle diffuse par le sang, mais elle va agir plutôt sur l'ensemble de l'organisme et pas très bien sur le cerveau. Voilà. Alors, comme il a encore de la réserve, donc prenez cette première idée, c'est qu'il y a les endorphines qui agissent essentiellement sur notre organisme, mais presque, c'est pas tout à fait vrai, mais presque à l'exception du cerveau. Et donc, comme on sait que la morphine a beaucoup de récepteurs morphiniques dans sa sauce, et bien il cherche encore, il trouve des petits peptides, tout petits, qui possèdent 5 acides aminés. Voilà. Et à ce moment, il s'aperçoit que ces nouveaux peptides, très courts relativement par rapport à l'endorphine qui fait une trentaine d'acides aminés, hein, donc je vais vous montrer les formules, bien entendu, il essaye de voir quelle est leur spécificité, et là il découvre que c'est typique de l'encéphale, d'où il leur donne un nouveau nom, des encéphalines, voilà, avec un K à l'allemande. Je pense que Klosterlitz n'y est pas pour rien, mais enfin bon, son patron, quoi, en gros, et c'est comme ça qu'il le décrit. Et là, il s'aperçoit que essentiellement, il y a deux encéphalines, méthencéphaline et leucéphaline. La différence entre les deux, c'est que ce sont deux acides aminés qui les différencient, comme je vous le montrais, les autres étant communs. Donc, voilà, résultat des courses, 1975, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes familles de neuropeptides, les endorphines d'une part qui agissent essentiellement sur la périphérie de l'organisme, c'est-à-dire presque pas sur le cerveau, et puis par contre, de façon spécifique, des encéphalines qui vont agir essentiellement dans le cerveau. Alors là, bien entendu, quand on passe tous les tests, on s'aperçoit que ça reproduit assez bien ce que donne la morphine. Alors, donc, si vous voulez, ça c'est juste le plan, hein, je vais vous donner les images, hein, mais là il faut avoir les idées assez claires. Hein. Donc le deuxième problème, c'est Qu'est-ce qu'il en est des centres cérébraux, qui concernent donc le plaisir et la douleur? Et donc là, c'est une autre équipe qui a fait le travail bien avant. C'est une équipe qui travaille à Montréal, et c'est dans les années 1954, et c'est le laboratoire de Donald Hebb, qui est un des grands noms des neurosciences, et même presque des neurosciences cognitives. C'est un petit peu paradoxal parce que, en fait, Donald Hebb est un passionné de la psychanalyse et de Freud en particulier. Et il est venu à étudier les neurosciences à cause de l'esquisse d'une psychologie scientifique de Freud, en gros. Hein, voilà. Donc, il était accaparé par les cognitivistes, mais au départ, il raisonne pas trop mal. Hein, donc là, il a deux élèves qui sont devenus célèbres, James Auld et Peter Minner, et qui, eux, alors, sont sur un autre trip, hein, c'est en gros le trip de l'époque des années 50, du behaviorisme en un mot, et donc la neurobiologie essaye de mettre son grain de sel dans l'étude du comportement, et c'est à la suite des conditionnements, des apprentissages, mais surtout qu'on appelle des conditionnements de Pavlov. Vous vous rappelez, on fait sonner une petite clochette et puis le chien de Pavlov se met à saliver. Là, voilà. Alors, Skinner a modifié le schéma et a proposé un apprentissage qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, qu'on appelle le conditionnement opérant. De conditionnement opérant, ça veut dire que l'animal n'est pas passif comme le chien dans son harnais, attendre que sonne la cloche. Là, il y a un signal, par exemple une lumière, et pour obtenir la récompense, l'animal, bien souvent dira, eh bien, il appuie sur une petite pédale qui est accessible dans sa cage, et à ce moment, il obtient une récompense. Hein, il fait un acte. Et puis, quand il appuie sur la pédale, il obtient une boulette de nourriture, tout simplement. Et comme le rat est un goinfre, c'est très facile de le rendre actif et de le récompenser. Voilà. Alors, donc, c'est dans cette perspective générale qu'ils veulent faire changer de compartiment leur rat. Et donc, pour cela, ils utilisent ce comportement opérant. Et donc, ils vont, en quelque sorte, conditionner le rat à recevoir des stimulations électriques, en un mot, directement dans le cerveau, pour qu'ils évitent un compartiment ou l'autre, etc. Et il se trouve que tous nos deux doctorants, là, ont placé les électrodes dans un lieu particulier pour une certaine manip, et c'est dans le septum que ça tombe. Et là, ils s'aperçoivent que progressivement, le rat prend très très vite à se stimuler, finalement, hein, parce qu'ils ont jumelé le générateur électrique avec la petite presselle que le rat peut presser avec son museau ou bien avec ses pattes. Et à ce moment, le courant électrique vient stimuler l'animal. Et là, il découvre quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'animal a l'air complètement affriolé par cette auto-stimulation. Voilà. C'est-à-dire, ça fait vraiment penser à des caractères autistiques, où il se met à appuyer sur sa pédale, si j'ose dire, frénétiquement, et à longueur de journée. Voilà. Et alors, contrairement à ce que font les rats boivent un petit peu d'eau dans le biberon, puis après vont casser une croûte, et puis après vont roupiller, puis etc. Puis si jamais il y a des partenaires, ils vont pouvoir s'ébattre, etc. Et puis on recommence comme ça, sempiternellement. Et là, Holtz et Minner découvrent que les rats se foutent complètement des boulettes qu'on leur donne, premièrement, donc... Deuxièmement, ils s'aperçoivent aussi qu'ils se mettent à complètement négliger la boisson. Ils ne dorment plus et ils n'ont plus de sexualité. En gros. gros, pour faire simple, quoi. Et ils appuient sur leur pédale comme des malades, parce qu'ils sont vraiment malades, c'est vraiment compulsif, et plus que compulsif, ils ne peuvent plus s'en empêcher, quoi. Voilà, ils passent leur temps accrochés à cette pédale, si je veux dire. Voilà, alors là, bien entendu, bien sûr, c'est jubilatoire, mais c'est mortifère en même temps, c'est-à-dire ils meurent, quoi. Au bout d'une semaine, tant vous dire, ils sont maigres comme des coucous, et ils tombent, quoi. C'est-à-dire, voilà. Donc, bien entendu, dans un premier temps, ils ont bien compris qu'ils étaient tombés sur un centre du plaisir, quoi, en gros. Bien sûr. Alors, ils l'ont publié, ça fait du barouf, toute la communauté était en émoi, parce que, bien sûr, ça parle, hein, quand même, de chercher le point G, mais là, ils l'ont trouvé chez le rat, en tout cas. Hein. Et bien entendu, si ça existe chez le rat, c'est sûr que ça existe chez l'homme, quoi. Hein. Bien entendu, on va pouvoir faire le lien avec la morphine, hein, sans aucune difficulté. Mais quand même, au passage, on s'aperçoit que quand même, les besoins vitaux, les besoins biologiques de base, quoi, hein, la faim, la soif et le sommeil, pour le moins, le trépied pour l'équilibre biologique, ben là, sont complètement anéantis, quoi, en gros. Hein, c'est-à-dire, ils ont tout sacrifié, en somme. Or, il se trouve que, en général, la nature a prévu de ne jamais arriver à renoncer à ses besoins fondamentaux et que, bien entendu, il y a une plus-value à les pratiquer. Avoir ces comportements de nourriture ou de boisson ou de sommeil, ça donne du plaisir. Voilà, en gros. Donc là aussi, on fait encore une connexion avec la morphine, bien entendu. Donc il aura fallu pas mal de temps pour faire tous ces liens, mais ça s'est fait dans les discussions de la communauté. Alors, deuxième point, c'est justement le rapport entre les stupéfiants et la dopamine. Voilà, alors, c'est-à-dire, comme on connaît les stupéfiants, et comme on connaît bien la dopamine, parce que la dopamine a tout un tas de vertus, elle intervient dans le sommeil, mais elle intervient également par manque dans la maladie du Parkinson, et donc la maladie du Parkinson, on la connaît depuis belle aurore, 1905, mais il y a longtemps qu'on sait que c'est un déficit de dopamine qui est responsable des symptômes du Parkinson. Donc, et là, comme on connaît bien tous les stupéfiants, on s'aperçoit que ces stupéfiants ont toujours un point commun, c'est de booster complètement la production de dopamine. Et donc, du coup, quelle est cette relation? Et bien là, donc, ce qui est clair, c'est que le turnover, c'est un terme anglo-saxon pour dire le métabolisme, mais qui tourne à une vitesse constante, en gros, mais là, c'est plus constant, il n'y a plus de régulation, ça s'emballe, en quelque sorte. Voilà, c'est pour ça que j'utilise le terme de booster, parce que ça veut dire la même chose, c'est-à-dire ça dope complètement le métabolisme de la dopamine. Voilà, donc que ça soit des stimulants, et là, bon, ça permet de récapituler un petit peu les substances qui sont stupéfiantes, hein, les amphétamines, la cocaïne, la nicotine, que j'aurais dû mettre à ce niveau-là, mais aussi les opiacés, que ce soit l'héroïne ou que ce soit la morphine, et puis enfin divers substances qui entraînent des dépendances, plus ou moins fortes, plus ou moins faibles, vous les connaissez, je pense, l'alcool, les barbituriques, les benzodiazépines, et puis même, à la grande limite, le THC. Alors THC, c'est un terme que j'ai défini un peu avant, c'est-à-dire les années antérieures, hein. Tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire bon, le cannabis pour faire simple. Voilà. Et là, à ce moment, on s'est aperçu que la dopamine venait en quelque sorte augmenter dans des proportions incroyables au sein du cerveau, en gros, et que du coup, c'était ces stupéfiants qui en étaient responsables. Voilà. Alors donc du coup, on a commencé à essayer de voir un peu quelles étaient les structures qui en étaient responsables, et là on a découvert petit à petit, c'est toujours un peu des bricolages, et là je peux vous donner que le terme générique, c'est le circuit de la récompense. Et donc on va voir ça, bien sûr. Alors, pour un petit peu finir, le troisième point, c'est les effets pervers des stupéfiants. Donc, ces stupéfiants modifient complètement le fonctionnement des neurones, en tout cas de certains neurones. Donc, on a un effet au niveau cellulaire. Et donc, il y a beaucoup de choses, je vous les donnerai, mais ce qui est caractéristique, c'est que ça forclôt complètement les peptides endogènes, c'est-à-dire ça vient les empêcher dans leur synthèse, c'est-à-dire il n'y a plus sécrétion de neuropeptides endogènes. Alors par exemple si on raisonne sur les opioïdes, il n'y a plus d'opioïdes, donc il n'y a plus de plaisir possible produit naturellement, parce que tout simplement on a déversé des grandes quantités d'opiacés exogènes et que du coup l'organisme conduit une politique de rigueur, et donc puisqu'il y en a à profusion qui viennent de l'extérieur, c'est pas la peine de se tracasser à faire la synthèse de substances endogènes qui coûtent très cher, quoi, en gros, hein, voilà, c'est on a séché complètement les peptides endogènes, et donc du coup il n'y a plus de source de plaisir interne, et donc du coup on devient complètement dépendant de l'extérieur. Voilà, et c'est tout le dilemme du problème de l'addiction, voilà, qui est un peu décrit. Alors deuxièmement, au niveau comportemental, c'est-à-dire on reste avec des humains, donc forcément ils ont des buts dans la vie, et bien le but dans la vie, c'est lorsqu'ils ont commencé à être initialisés avec des stupéfiants, et bien ils vont changer de comportement de recherche, c'est-à-dire peu à peu ils vont être eux aussi obnubilés par la quête de la substance. Alors là aussi c'est une recherche compulsive par rapport au plaisir, mais comme je l'ai un petit peu déjà laissé entendre la semaine dernière, en même temps qu'on rentre dans la consommation de ces substances, il y a un mal-être qui commence à apparaître, et finalement, assez vite, le stupéfiant ne va servir qu'à, justement, évacuer ce mal-être. C'est-à-dire, il n'y a même plus de plaisir, ou à peine, ou alors juste par le shoot, qui donne un flash, en un mot, mais progressivement, la dette est de plus en plus énorme par rapport aux peptides endogènes, et donc du coup, on est en dessous du niveau de la mer, et donc du coup, on est toujours en train de courir après un hypothétique bien-être qui n'existe plus, et le mal-être est de plus en plus grand, et donc il faut augmenter les doses pour revenir simplement à ne pas souffrir. Voilà, et c'est diabolique, bien entendu. Et donc, du coup, il y a un troisième niveau qui est encore supérieur par rapport au but de l'existence. Donc, c'est un niveau existentiel. Donc, il y a souffrance physique et psychique, selon où on en est. Bien sûr, il y a une perte du libre arbitre, tout simplement parce qu'on est dépendant du dealer, quoi. Tout simplement. Le dealer lui-même est dépendant des go-fast, etc. Enfin, bon, de sa majesté, et puis des mafias, etc. Bon, alors donc, je vous invite à voir C'est dans l'heure ce soir, parce que le titre, apparemment, c'est des drogues et de l'argent, je crois. Et donc, des armes, en plus. Bon, donc là, vraiment, on a absolument tout ce qu'il faut pour être dans le sujet, pour préparer la géopolitique des drogues. Hein, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Bon, donc, du coup, voilà, si je résume, dans un état de santé, on peut supporter pas mal de choses, mais on peut aussi prendre du plaisir avec des stupéfiants. Et puis, dans un deuxième temps, bien sûr, on peut contracter une certaine dépendance qui peut devenir de plus en plus lourde. Et puis enfin, progressivement, on peut faire une addiction, hein, avec tous les processus que je viens un petit peu de décrire. Et alors à ce moment-là, on est vraiment dans la pathologie, quoi, dans la maladie, quoi, en gros. Hein, voilà, c'est-à-dire, on a basculé insensiblement, fleur au fusil, dans la joie, etc. Et c'est pour ça que... il faut y aller doucement, quoi, hein, je pense. Alors voilà. Alors donc la fois précédente, j'ai eu plein de questions. Donc voilà quelques réponses. Hein, que faire? Je pense qu'il faut s'informer, quoi. Alors, il y a plusieurs façons de s'informer, mais un des recours, je vous en donne juste deux ou trois, hein, c'est de s'adresser au centre Jean Bergeret. Je suis assez attaché parce que j'ai été administrateur du CNDT, c'est-à-dire Centre National de Documentation sur les Toxicomanies, qui est maintenant presque en déshérence parce que l'ARS ne reconnaît plus les problèmes de documentation. Il n'empêche qu'il y a un organisme toujours au sein du centre Jean Bergeret qui prend le relais, on va dire, pour faire simple, et c'est le CIRDDRA, Centre d'information régionale sur les drogues et les dépendances, RONALP. Donc vous voyez que ça a été formé avant que le concept d'addiction soit imposé partout. Donc ce centre Jean Bergeret, eh bien, c'est 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon. Et puis voilà le téléphone, 04 72 10 94 30. Et là il y a une secrétaire qui me connaît bien, c'est Corinne. Donc s'il y a une difficulté de quelque ordre que ce soit, vous pouvez demander des informations et surtout éventuellement du secours. Il y a en parallèle dans le centre Jean Bergeret, il y a un centre de réflexion et d'action sur la dépression et le suicide et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, demandez de l'aide de ce côté-là. Autrement, moi j'ai un cabinet, donc voilà, comme il se trouve que je m'occupe de thérapie, de situation de crise, on peut mettre les doigts éventuellement, voilà, pour des consultations, des conseils, quoi, pour tous âges, pas de difficultés. Alors bon, je sais que ces questions-là sont bien souvent les adolescents, hein, mais bon. Donc pour ça, voilà, des numéros de téléphone, et puis un courriel, vous pouvez me joindre, hein, psychobrette, hein. Alors bon, ça peut être avec des majuscules ou des minuscules, c'est pareil, @laposte.net. Voilà, et puis enfin, troisième chose, je l'ai fait depuis longtemps, j'avais fait des cours à la fac, qui étaient très, très volumineux, et donc du coup j'ai un joli copier pour ceux qui sont vraiment frustrés de ne pas avoir trop de textes et de biblio. Bon, je donnerai la biblio sur, c'est des polycopes, c'est possible d'y accéder pour des prix pas trop onéreux. Voilà, bon alors, ça c'était juste une petite introduction pour vous donner un petit peu les lignes de force. Alors maintenant, je vais essayer de changer de crèmerie pour... Donc si vous voulez maintenant à tête reposée, on va essayer de vous appeler l'image, quoi. Donc je reprends la même structure, hein. Donc la question des opioïdes, comment agit la morphine, vous avez compris, la quête des centres cérébraux, plaisir et douleur, et puis les effets pervers, voilà, vous savez tout là-dessus. Alors du coup, bien entendu, c'est la première question, donc je voulais déjà développer. Et donc, regardons maintenant les sources que récupère John Hughes, donc les trois tas qu'il peut faire. Donc d'abord, la question des endorphines, voilà, là. Donc la bêta-endorphine, vous avez la liste des acides aminés, qui est ici, donc vous envoyez une bonne quantité. Alors, par exemple, tirgliglifémètre, voilà, ça c'est ce que vous devez garder dans votre oreille. Tir pour la tyrosine, glycine, phénylalanine, méthionine. Voilà, alors ça c'est une séquence qu'on va retrouver dans les encéphalines. Tirgliglifémètre, et puis l'autre, tirgliglifé-le. Voilà, et donc du coup, c'est ça qui a permis de dire, les encéphalines, c'est 5 acides aminés, donc des peptides de 5 acides aminés, qui ne se différencient que par la méthionine et la leucine. Voilà. Alors que, bien sûr, ici, vous en avez, je crois, 19 ou 20, je ne sais plus, ou 30, mais il se trouve que ça commence par la méthencéphaline, vous voyez. Voilà, c'est-à-dire, finalement, on découvre que ces peptides, ces neuropeptides endogènes sont finalement des, des neuropeptides gigognent et que donc du coup dans, un, dans l'endorphine vous avez des encéphalines et que ça se produit à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment c'est une fractale presque, hein, vraiment c'est incroyable et ça va donner des propriétés extraordinaires au cerveau, c'est qu'il va pouvoir faire des fabrications industrielles de ces encéphalines et endorphines qui vont être indispensables pour lutter dans certaines situations de stress. Voilà, en gros, hein, c'est-à-dire comment c'est possible de tenir le choc quand on est au bord de crever. En gros, vous avez vous êtes fracassé dans un accident. Comment c'est possible de riposter? Ben c'est que c'est essentiellement ces endorphines et ces encéphalines qui vont nous donner la pêche pour pouvoir rester vivants, pour agir selon un certain nombre de logiques complètement farfelues, des réflexes qui sont en fait des réflexes qui sont phylogénétiques, qui nous viennent de la nuit des âges, c'est-à-dire comme nos ancêtres nous l'ont appris, les poissons, les reptiles, les mammifères, les primates, c'est des réflexes, c'est pas la conscience qui nous permet de survivre. Là, voilà. Et pour tenir le coup, ces endorphines et ces encéphalines vous donnent un moral d'acier, bien sûr, exactement comme la morphine le fait quand vous êtes dans des grandes douleurs. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est quelque chose de phylogénétique.
Alors donc, Jean-Hugues définit ce que sont les endorphines qu'il trouve, il s'aperçoit qu'il y en a donc 4 ou 5, hein, alpha, bêta, gamma, donc voilà. Et puis ensuite les encéphalines, et puis le petit reste, eh ben, il y a quelque chose, on ne sait pas quoi faire, voilà, c'est une substance qui emmerde les biochimistes, voilà, on ne sait pas qu'en faire, et puis on lui a donné ce nom de substance P. Et il se trouve que, alors je ne sais plus pourquoi on lui a donné le nom de substance P, mais il se trouve que c'est vraiment très adapté, parce que P, c'est l'initiale de pain. Or, la substance P, ça va être le neuromédiateur de la douleur. Voilà. Alors donc du coup, voilà, c'est John Hugh qui trouve tout ce marigot là, et vous avez là la formule de la substance P, donc vous la gardez, mais on le verra au dernier épisode, si j'ose dire, de la série 4 pour ça. Hein, voilà, arginine, proline, lysine, glutamate, phénylalanine, phénylalanine, glycine, leucine, méthionine. Voilà.
Et donc du coup, voilà, on a maintenant au moins 4 mousquetaires à avoir pour, en quelque sorte, ce sont les acteurs de cette question des addictions et des stupéfiants, en gros, qui sont à peu près résolus. Alors voilà le code, hein, donc ALA, c'est alanine, arginine, c'est arg, etc. Bon, il y en a une vingtaine qui sont indispensables. Ce sont les acides aminés, hein, qu'on appelle des peptides, donc monopeptides, bipeptides, tripeptides, puis après polypeptides, neuropeptides, quand ils sont produits par le cerveau. Alors voilà, par exemple, la bêta-endorphine, voilà comment elle se présente, tirbiglyphémètre, vous la connaissez, puis tréonine, sérine, glucine, lysine, 31-32, voilà. Et puis vous avez des enzymes qu'on appelle des enzymes de restriction qui repèrent chacun des acides aminés, puis tac, ils les coupent et qui donnent de nouvelles molécules. Alors là, c'est le cas, là, voilà, vous avez la gamma-endorphine, vous voyez, ben tiens, vous avez l'enzyme qui doit tailler la tyrosine, là, et puis au niveau de la leucine, là, tchac, elle l'a coupée aussi. Voilà, et à ce moment, c'est une nouvelle endorphine qui va agir sur les membres, sur la peau, sur les tendons, sur les muscles, un peu partout, mais pas dans le cerveau. Bon. Et puis, on peut continuer encore à enlever de la tyrosine, et puis encore modifier le système. Voilà, on a un système très élaboré. Bon, c'est vite rasoir, hein, quand on s'en fout, mais bon, vous devez le savoir. Voilà, alors, donc, comme je vous le disais, vous avez en quelque sorte le cerveau qui produit des neuropeptides, mais qui donne l'idée de production intensive, et pour ça, ce sont un petit peu le modèle que j'ai en tête, ce sont des missiles, en quelque sorte, à fragmentation. Alors, il y a un missile qui comporte 3 ou 4 missiles, qui eux-mêmes sont refragmentés en 4 ou 5 autres sous-munitions, puis chacune 6 ou 7 sous-munitions, puis quand on arrive au final, c'est explosion de billes pour détruire l'adversaire, en quelque sorte. Hein, ouais, c'est-à-dire, c'est pas simplement une balle, non, c'est une constellation d'éléments qui vont donner qui des endorphines, qui des encéphalines, qui tout un tas de choses. Puis ensuite, vous avez les enzymes qui vont... Alors là, cette figure-là vous donne une petite idée des pro-encéphalines, c'est-à-dire ces gros peptides qu'on appelait à l'époque, dans ces années 70, un peu folle, on appelait le big ACTH, pour vous dire, hein, et qu'ensuite on refractionne. Et donc là, voilà, vous avez de la méta-encéphaline, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis ici, vous avez la le-encéphaline, vous voyez, donc vous avez le package là qui est envoyé en permanence, et du coup, le cerveau et le reste de l'organisme font leur marché, finalement, prennent les gros bouts, puis les découpent. Et voilà l'exemple de la découpe enzymatique. Là, voilà, vous avez des enzymes qui vont enlever la lysine et la lysine, qui vont respecter la tyrosine, glycine, glycine, méthionine, là, et puis qui vont se remettre à couper les autres morceaux. Et puis, on coupe encore. Et voilà, vous avez là la méta-encéphaline qui est prête à l'emploi et qui va donc servir dans le neurone à encéphaline, c'est-à-dire celui qui en a besoin. Il est équipé de tous les enzymes pour pouvoir découper, exactement comme vous faites des piquets, hein, vous coupez des branches et puis après vous taillez en pointe, hein, pour faire vos piquets. Voilà, c'est un peu le système de comment on passe d'une pro-encéphaline à des encéphalines. En grande quantité. Alors voilà, là, toujours, alors là c'est la leucine, encéphaline, hein, là. Et voilà la formule développée qu'on a pu trouver donc, par la suite. La le-encéphaline, ben voilà, vous avez donc la tyrosine, là. Et puis ensuite glycine, glycine, phénylalanine, ici, et puis leucine, qui est ici. Tyrosine, là, j'ai dit leucine, mais c'est tyrosine, hein, là. Voilà, donc du coup, en gros, ben, on a pu faire l'analyse fine de ces substances. Alors, bien sûr, on fait la formule développée, là, avec, dans l'espace, en 3D, en gros, et voilà, ça vous donne la tyrosine, qui est ici, glycine, glycine, méthionine, thios, ça veut dire soufre, donc bien sûr, on a un atome de soufre qui est énorme, et puis enfin, phénylalanine. Voilà, alors bon, ça, on est bien content, hein, c'est joli, bon, il n'y a pas de souci, mais vous allez voir que ça va plus loin. Donc, bien entendu, première chose, c'est qu'on rapproche cette encéphaline de la morphine, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, il y a un point commun. Il se trouve que dans la molécule, il y a un motif qui est le même. Voilà, et vous le voyez ici, là, pour la morphine. Et puis ça, c'est la morphine. Et puis là, c'est la le-encéphaline. Et la méta-encéphaline serait la même chose. Voilà. On s'aperçoit que cette partie est commune. Et donc, automatiquement, puisqu'elle est commune, elle va pouvoir entrer dans le même récepteur. Voilà. Et donc, du coup, là, simplement, en regardant la structure de la morphine et de la leucéphaline, on commence à comprendre qu'en creux, il y a le récepteur qui va correspondre, en somme. Et donc, du coup, le coup de la clé de la serrure qui vont pouvoir fonctionner. Voilà, alors, bien sûr, ça paraît oiseux, ben, mais voilà, là. Vous avez, qu'est-ce qui ressemble? Ben, c'est cette partie-là, et puis cette partie-là, voilà. Voilà. Tout le reste, on s'en fout, hein, c'est exactement comme une clé, hein, vous foutez pas mal du pommeau, hein. Ce qui est important, c'est le pelle, hein, si j'ose dire, hein, comme dirait Marine. C'est sûr. Et donc, bien entendu, quand on a les structures chimiques, bah, en creux, on a à peu près dessiné le récepteur. Et bien, le voilà, le récepteur. Voilà. Et c'est lui qui va être responsable de l'effet antidouleur, aussi bien pour la morphine que pour l'encéphaline. Vous l'avez là aussi dessiné. Alors, on peut l'affiner, hein, mais en gros, une fois qu'on a compris, pas la peine de tout décrire. Hein. Bon, voilà, sinon, bon, ça devient difficile, quoi, en gros. Voilà, donc hein, là, l'analogie de la forme, de la relation clé-serrure. Alors, bien entendu, c'est un neuropeptide, donc c'est un messager chimique. Donc, bien entendu, dans le cerveau, il y a tout ce qui fait, tout ce qu'il faut pour le synthétiser, c'est-à-dire pour découper les morceaux qui sont en trop. On a l'encéphaline, et puis après, bien sûr, il y a des enzymes qui viennent la dégrader, parce qu'une fois qu'elle agit sur le récepteur, il faut qu'elle reste pas, qu'elle s'éternise pas. Donc là, vous avez les enzymes qu'on appelle encéphalinase, c'est-à-dire l'enzyme qui va venir dégrader, couper là, entre phénylalanine et glycine, donner des petits morceaux qu'on va récupérer, bien entendu, et puis une aminopeptidase à ce niveau-ci. Voilà. Et puis là, vous avez le récepteur, et là, on voit que ce cycle, qui fait partie, là, ici, là, de la tyrosine, ou bien ce CH3, vient dans ce récepteur. Voilà, il y a deux pôles, finalement. C'est-à-dire, finalement, je continue encore avec les histoires de clés, vous savez qu'il y a toujours des doigts et des trous, en gros, ben, ça vient juste se mettre au bon endroit pour faire marcher le mécanisme, en quelque sorte. On peut continuer l'analogie. Alors, bien entendu, on revient à faire la jonction entre ce qu'a fait Salomon Snyder, c'est-à-dire localiser le récepteur de la morphine, et puis l'identification des récepteurs des neuropeptides endogènes, en gros, et là, il se trouve que ça correspond assez bien. Alors, voilà une image, là, qui vous montre... Les encéphalines sont en bleu, les voilà, là, ici. Et puis, le récepteur à opiacé, à morphine, en gros, sont en jaune. Alors voilà, bon, il y a des endroits où c'est pas homologue, donc c'est un autre problème, mais ici, là, c'est bien net, ici, c'est bien net, ici, ça l'est assez, et puis là, tous ces faisceaux le sont également. Et puis enfin, ici et là, dans la moelle épinière, vous voyez aussi. C'est-à-dire, finalement, il y a peut-être 90% de correspondance entre l'encéphaline, où elle est située dans le cerveau, et puis la morphine, où elle se fixe elle-même. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ces coupes? Ben, c'est assez simple. On utilise des marqueurs radioactifs pour la morphine ou pour l'encéphaline. On fait incuber dans des coupes de cerveau, en un mot, puis bien entendu, l'endroit où c'est radioactif, on sait qu'il y avait qui de l'encéphaline, qui de la morphine, et donc du coup on fait un marquage en somme, et on a l'intensité, etc. Voilà, donc ça colle très bien, c'est finalement la jonction de deux recherches. Hein. Alors voilà les travaux de Salomon Snyder. Là, chez le cobaye, alors, là, donc il a fait pareil. La morphine est radioactive. On fait incuber des coupes de cerveau et des coupes de moelle épinière de cobaye. Et l'endroit où ça crache énormément, ben, c'est qu'il y a beaucoup de morphine. Voilà. Alors, donc, en 72, Salomon Snyder a pu donc prouver que la morphine se liait dans certaines zones, et au centre du cerveau, bien entendu, et puis dans cette zone ici, qu'on va voir la prochaine fois, hein, ou la dernière fois, bien sûr, dans des zones bien particulières. Alors voilà, par exemple, la même incubation dans le cerveau. Là, je pense que ça doit être le cerveau de chat. Bon, voilà. En noir, c'est-à-dire ici, là et là, on a beaucoup, beaucoup de récepteurs. Ici, on en a une quantité moyenne, par là. Et enfin, aux endroits où c'est jaune, il y en a une petite quantité de morphine, hein, là, en l'occurrence. Donc, on voit que toutes les structures nerveuses ne réagissent pas de la même façon. Et celles qui réagissent énormément, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de récepteurs. Donc, vraiment, c'est agglutiné. Et bien entendu, il se trouve que c'est dans le système limbique que l'on a le maximum d'activité. Alors bon, ben, vous les avez ici, là, en gros, hein, là, ici, vous l'avez ici, là, aussi, cortex limbique, amygdale, hippocampe, par exemple, et puis, bon, thalamus, et puis là, cette zone qui est très particulière, qui s'appelle la substance périaqueducale, qui est essentiel pour comprendre l'anesthésie, hein, pour donc pouvoir doser exactement au micropoil la quantité de morphine ou d'opiacé qu'on va donner pour une anesthésie ou pour une intervention chirurgicale, ben, c'est ici que ça va se jouer. Là. Et le ressenti de la douleur, c'est bien entendu l'amygdale et puis le cortex limbique ici. C'est bon, ça commence à prendre bien sa place avec ce que l'on sait du fonctionnement des émotions, en un mot. Hein. Donc la douleur et le plaisir, c'est pas autre chose que les deux mamelles essentielles des émotions. Alors, bon, bien sûr, on a tous les types de récepteurs, dont j'ai déjà un petit peu parlé, mu, delta, kappa, et le cortex, ben, vous voyez que là, on est très fourni en récepteurs mu, l'amygdale qui est la plate tournante des émotions, c'est elle qui donne la peur, ou la surprise, ou la joie, ou la tristesse, ou le dégoût, ou autre. Donc, bien sûr, on voit qu'elle est bien équipée, et un peu moins de delta, et aussi un peu moins de kappa. L'hippocampe, alors là aussi c'est quelque chose qui est incontournable, il faut savoir ça. L'hippocampe, c'est la plaque tournante de la mémoire. C'est-à-dire, non seulement on ressent des émotions avec notre amygdale, mais en plus, c'est mitoyen avec l'hippocampe. Et donc, du coup, on se souvient de nos émotions. Pour faire simple, on se souvient essentiellement de ce qui nous a ému. En gros, tout le reste, des balivernes. Hein. Ça part à la poubelle. Hein. Alors vraiment, il faut vraiment que ça rapporte de l'argent pour qu'on s'en souvienne, ou bien que ça mène des déboires. Mais là, bon, il y a tellement d'informations qui arrivent que le tri, il est vite fait. Hein. C'est, hop, on passe à la poubelle tout ce qui n'est pas émotionnel. Et maintenant, vous voyez que dans notre civilisation, il n'y a plus que l'émotionnel qui compte, quoi. Là, vraiment, c'est un gros bouillon. Bon, ça devient fou. Il n'y a plus à penser, quoi. Là, il faut vraiment ne plus penser. C'est ça qui donne du plaisir, quoi, en gros. Alors, vous voyez un peu le martyr des enseignants, quoi. C'est sûr. Qu'il y a de plus, hein. Là, c'est Pluriol qui a fait le planton, la plante verte pendant un an. On off, il était toujours en off. Il n'y a pas que le mur des cons. Bon, on arrête. Alors, bien entendu, encore un copain qui va vous dire compagnie, c'est le noyau accumbens. Bien sûr, parce que là, c'est l'âme du système de la récompense, hein, du circuit de la récompense. Alors regardez là, moi on pleurniche pas là, hein, sur les récepteurs, hein, c'est à fond la caisse. Hein. Regardez, hein, trois étoiles, hein, là, c'est, ça bat Pépé Griot. Il y a tous les récepteurs de la création, hein, là, c'est sûr. La substance noire, hein, elle fait fort, là, toujours, hein, là, dans son récepteur. Et puis enfin, dernière, celle-là, vous ne pourrez pas l'oublier, quoi, hein, c'est la substance gélatineuse. Hein, le numéro 5, là, on va y revenir dessus. C'est ça qui fait mal, hein, en gros. C'est là que c'est bourré de substances P, quoi, en gros. Et donc, du coup, forcément, là, on a tout ce qui peut... Quand on reconnaît la physiologie, on voit tout ce qui fait plaisir et tout ce qui va faire mal, en quelque sorte. Et il se trouve qu'il y a une adéquation entre l'un et l'autre, hein, bien sûr. Que, en gros, je ne l'ai pas encore bien dit, mais les opioïdes, les opiacés vont venir contrer la douleur. Et donc, du coup, bien entendu, ils sont sur les mêmes lieux, quoi, hein, puisque l'un ne va pas sans l'autre, en somme. La nature est bien faite. Alors, bien sûr, on a les sites, on a les agonistes, hein, c'est-à-dire les substances chimiques qui agissent sur les récepteurs. Alors, par exemple, mu, c'est la morphine qui bat tous les records. Hein, et quels sont les effets ? Antinociceptif, dépression respiratoire, bradycardie, myosis. Myosis, je crois que je me suis trompé l'autre fois. Myosis, ça veut dire qu'on ferme la pupille. En gros. Et midria, c'est quand on l'ouvre. Hein. Alors, la cocaïne ouvre la pupille et puis la morphine la ferme complètement. Voilà. Et donc, ça montre bien qu'on a deux effets opposés. Il n'empêche que dans les deux cas, on va avoir un gros bouillonnement de dopamine. Delta. Les encéphalines, voilà, sont reines dans le delta. Effet antinociceptif, euphorie, convulsion. Quand on va jusqu'au bout. Et kappa, ce sont d'autres substances opioïdes, benzomorphane, dinorphine, antinociceptif,
effet endocrinien, c'est-à-dire les hormones, et puis une sédation. Voilà, donc avec ça, on a le tableau que j'ai un petit peu décrit à grandes enjambées la fois précédente. Donc voilà, si maintenant on compare les emplacements avec les actions des opiacés, voilà, on a la moelle épinière, dans les secteurs 1 et 2, on a la perception de la douleur, mais sur l'ensemble du corps. Donc là, les endorphines sont en pole position, si j'ose dire. Sur le tronc cérébral, la substance gélatineuse sur du mètre 5, là, hein, c'est, on l'appelle 5 dans l'histologie, c'est perception de la douleur au niveau de la tête, essentiellement. Faisceau solitaire, dépression respiratoire, cet air-là, post-tréma, nausée, vomissement. Locus coeruleus, essentiel au sommeil paradoxal, là, c'est qui vous donne de l'euphorie comme c'est pas possible, et donc bien entendu d'où la jouissance dans les rêves, quoi. Quand on souffle bien, sinon ça passe la gare, quoi. La bénula, eh bien, ce sont les émotions et l'euphorie. Tubercule quadrijumeau supérieur, la myosis, là, donc la fermeture du diaphragme, noyau parabrachial, l'euphorie. Voilà. Et donc là, bon, derrière tout ce que je vous raconte, là, vous entendez que les opiacés agissent dans des structures bien différentes en donnant des effets multiples finalement, parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes récepteurs, mu1, mu2, mu3, delta 1, delta 2, delta 3, etc. Et donc du coup, on a tout le panorama de ce qui se passe. Infundibulum, donc juste à l'hypothalamus, là, en gros, entre l'hypothalamus et l'hypophyse, sécrétion d'ADH, c'est-à-dire bon, la résorption de l'eau, en quelque sorte, la réabsorption de l'eau par le rein, et donc ça vous donne une masse sanguine plus ou moins importante. Le thalamus, perception de la douleur. Et puis dans le télencéphale, c'est-à-dire vraiment sur la partie la plus périphérique, l'amygdale, les états émotifs, le striatum qui va piloter toute la musculature, en gros, eh bien ça peut provoquer une rigidité motrice, l'organe sous-fornix, les effets hormonaux, et la strie terminale, les états émotifs. Bon, peu importe la localisation, toujours est-il qu'on voit qu'on a toute la batterie de ce que l'on connaît comme effet des opiacés, en quelque sorte. Alors, voilà, là, une petite coupe sagittale du cerveau qui donne un petit peu... Bon, voilà, le fornix est ici. La région périaqueducale, c'est cette zone-là. Alors, je vous la montre, j'insiste, parce que c'est là qu'on a les capteurs, et donc les récepteurs morphiniques des neuropeptides qui vont donner la douleur lors des interventions chirurgicales ou de tout un tas d'autres éléments qu'on va pouvoir agir. Donc ce sont ces neurones-là qui tapissent ce petit canal qu'on appelle l'aqueduc de Sylvius, qui se trouve être essentiel pour lutter contre la douleur. Alors maintenant, la deuxième partie, hein, si j'ose dire, découverte des centres cérébraux, donc, et plaisir et douleur, donc les observations de Hold et Milner, donc, conditionnement, stimulation électrique, obnubilation de l'autostimulation, et puis forclusion des besoins vitaux, on l'a à peu près vu, stupéfiants et dopamine. Alors voyons le dispositif, alors voilà, tout simplement, hein, Laura est dans sa cage, il a des électrodes, donc je vous dis, c'est au niveau du septum, je vais vous montrer à peu près où c'est, et pour se stimuler, il a accès à la petite plaque, là, il suffit donc qu'il appuie avec sa patte, là, une fois, deux fois, trois fois, et puis là, vous avez le stimulateur, hein, et qui... Bon, il n'arrête pas, et alors là on voit la progression, là, le rythme est effréné, c'est une machine à se stimuler, quoi. Bon, ça évoque vraiment, c'est le comportement animal, mais ça évoque vraiment le junkie, quoi, en gros, qui toutes les 6 heures doit faire shoot, quoi, fixe, donc, je ne sais pas comment il l'appelle, hein, mais en gros, donc voilà, donc... Hall des mineurs, donc ont planté leurs électrodes ici. Voilà.
Et puis, bien sûr, les autres équipes ont essayé, ils ont trouvé effectivement que le rat reproduisait les mêmes éléments. Et puis, quand on piquait ailleurs, ben, ça ne déclenchait rien du tout. Et si on pique un tout petit peu plus loin, par là, eh ben là, c'est le centre de la douleur, en gros, qui apparaît. Et là, l'animal est complètement tétanisé, révulsé, il ne touche plus la pédale. Et si par malheur il la frôle, il fait des bonds, des convulsions et tout un tas de choses. Quoi. Voilà. C'est le cerveau de rat, hein, mais bon, pour s'éterniser dessus. Donc bien sûr, ce rapport, je vous l'ai déjà expliqué, stupéfiant à dopamine, qui booste la dopamine. Donc le circuit de la récompense, oui. Et qu'il faut que vous connaissiez, je vais vous montrer les images, l'aire tegmentale ventrale, qui est un des foyers, il y a deux foyers de dopamine, hein. Il y a l'aire tegmentale ventrale et la substance noire. Dans le problème du Parkinson, c'est la substance noire qui est en dégénérescence, si j'ose dire, et juste à côté, le noyau voisin, c'est l'aire tegmentale ventrale qui donne la dopamine, je vais vous montrer ça. Et puis, bien sûr, cet air projette sur le noyau accumbens et l'ensemble projette sur le cortex préfrontal, et c'est ça qui va expliquer les éléments. Alors d'abord, se familiariser avec la dopamine, si vous voulez, donc c'est assez simple. Un cycle benzénique ici, avec CH2, NH2, là, tout simplement, c'est bien une amine. Et puis ici, deux oreilles de Mickey, des groupes OH. Oxygène, hydrogène. Voilà. Et ben ça, c'est ça la dopamine, quoi, en gros. Alors, d'où elle sort ? Eh bien, bien sûr, c'est de la nourriture, enfin, c'est de l'alimentation. Dans les protéines, on les découpe en acides aminés. Et ces acides aminés, voilà, il y a la phénylalanine et la tyrosine. Alors, voilà la tyrosine, ici. Puis ensuite, vous avez une collection d'enzymes dans le neurone qui a récupéré de la tyrosine et de la phénylalanine qui va rajouter des éléments. Voilà, ici, on a un OH, et bien on en rajoute un autre. Voilà. Et puis ensuite, à ce niveau-ci, c'est une autre enzyme, la dopa-décarboxylase, qui va découper CO2, là. Hop. Et donc, du coup, on obtient la même molécule sans le CO2. Je passe un peu vite, mais je pourrais insister, mais j'ai pas le temps. Et à ce moment, on n'obtient qu'une amine, au lieu d'avoir un acide aminé. Vous voyez, comme vous le voyez. Et donc, comme ça vient de la dopa, eh bien, on l'a appelé dopamine, tout simplement, DA, en chimie. Et donc, du coup, c'est ce messager chimique qui va agir dans les neurones à dopamine, qui va donc, voilà, et qui va être dégradé, etc. Voilà, en gros, donc, les acides aminés de l'alimentation fournissent les acides aminés, en quelque sorte, hein, les messagers chimiques, dopamine et les autres, noradrénaline, sérotonine, etc. Bon, ben ça, c'est la même chose, simplement, on a la phénylalanine ici, qui va, elle aussi, être modifiée en tyrosine, puis en dopa, dihydroxyphénylalanine, en gros, et puis en dopamine. Et là, c'est intéressant, on s'aperçoit que quand un signal électrique arrive, vous avez la dopamine qui est dans des vésicules, des petites vésicules qui sont placées ici dans cette zone et qui se rapprochent de la membrane. Les deux membranes vont fusionner et la dopamine va se trouver dans la fente synaptique qui est ici, entre les deux, si vous voulez, hein, entre les deux neurones, si j'ose dire. Et donc, la probabilité est assez forte de venir saturer le récepteur à dopamine qui est ici. Mais, il y a une autre solution, c'est que le neurone qui émet la dopamine a aussi un autorécepteur, et donc, bien entendu, la dopamine peut venir et revenir ici, et à ce moment, ça donne un indice de la quantité de dopamine qui est produite. Est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez ? ça permet de réguler la synthèse de la dopamine.
Voilà, c'est un autorécepteur qui va être important. Et puis enfin, quand la dopamine est sur le récepteur, il ne faut pas qu'elle reste éternellement.
Et donc là encore, on a des enzymes qui viennent dégager en quelque sorte les récepteurs.
Et à l'intérieur, vous pouvez avoir de la dopamine qui n'est pas enrubannée par sa vésicule. Et à ce moment, vous avez là une enzyme qui vient la dégrader.
Et c'est la MAO. En quelque sorte, monoaminooxydase, et bien entendu, si on a un inhibiteur de la MAO, c'est-à-dire IMAO, ben ça donne un excellent antidépresseur, avec toutes les joies qui vont avec. Voilà, bon, en gros, hein, c'est vous dire que le neurone est assez complexe pour fabriquer son propre messager chimique, le diffuser à un deuxième neurone, en visant son récepteur, mais lui-même a un autorécepteur.
Voilà, en très très vite, trop vite, bon, là aussi c'est peut-être un peu trop, il est tellement extraordinaire ce schéma que ça me fait de la peine de le laisser tomber, mais bon, la tyrosine arrive par le sang finalement, voilà, les enzymes viennent modifier en dopamine, et puis la dopamine ben, est finalement synthétisée ici, et puis embrigadée dans des petites vésicules, et ces vésicules vont venir, au moment où l'influx nerveux arrive, les ions calcium vont provoquer la migration de ces vésicules, et les deux membranes vont fusionner, et donc la dopamine va se retrouver dans la fente synaptique, et là, c'est un jeu d'enfant pour elle de venir sur le récepteur de la dopamine, ou bien éventuellement sur l'autorécepteur. Voilà, alors là, il est extraordinaire parce que là, on voit comment ça fonctionne et ensuite, on voit comment ça peut venir modifier le fonctionnement des gènes, si vous voulez, dans les noyaux de chaque neurone. Et donc, du coup, il y a des adaptations en permanence, c'est-à-dire les neurones sont des acteurs intelligents, en quelque sorte. Hein, mais bon, laissons... Mais alors, où se produit la dopamine dans notre cerveau? Ben là, voilà, les deux perles sont ici. La substance noire, je dis, qui est concernée par la maladie de Parkinson, et puis le tegmentum mésencéphalique, c'est ici, l'air du tegmentum ventral, est ici. Voilà, il y a 10 000 neurones dans chacun, et donc on voit que les fibres de ces neurones projettent dans les différentes parties, dans le striatum, par exemple,
c'est-à-dire tout ce qui va produire la motricité fine,
et puis surtout dans le cortex frontal, et puis dans l'hypothalamus,
et donc bien entendu avec les systèmes endocriniens, neuro-endocriniens, et beaucoup d'autres endroits. Mais bon, voilà, c'est une sacrée histoire. Alors bien entendu, cette dopamine s'insère dans la grande famille des messagers chimiques qu'on appelle les monoamines, noradrénaline, sérotonine, histamine et tout ça. Et puis qu'à côté de ça, on a d'autres messagers chimiques qui sont plus petits, un tout petit peu plus petits, comme vous en voyez deux, là les deux essentiels, qu'on appelle donc des acides aminés. Deux acides aminés que vous devez connaître si vous m'avez écouté depuis quelque temps. Le GABA, voilà, donc une chaîne assez courte, hein, 4 carbones, NH2 ici, et puis là... COOH, donc l'acide aminé, le GABA donc, qui est le grand inhibiteur du cerveau. Et puis, son opposé, son alter ego, qui est inversé, c'est le grand excitateur, c'est l'acide glutamique, le glutamate, si vous voulez, l'acide. Il a deux fonctions acides, COOH, et puis la fonction amine qui est ici. Et donc, bien entendu, l'un va pas sans l'autre. Bon, c'est vraiment le frein et l'accélérateur de toutes les fonctions cérébrales et donc toutes les fonctions mentales. Et bien entendu, avec la cocaïne, on va surtout taper sur l'acide glutamique et avec les opiacés, on tape essentiellement sur le GABA. On retrouvera ça. Alors, voilà le schéma que vous devez garder en mémoire pour cette relation entre stupéfiant et dopamine, c'est ça, hein, c'est toujours la région présynaptique, région postsynaptique, donc ici la fente synaptique et l'influx nerveux, voilà, et donc du coup quand l'influx nerveux arrive, vous avez libération de dopamine. Hein. Et alors, la nicotine va agir à ce niveau-ci, de même que la morphine, toujours en excitant la quantité de dopamine disponible. La nicotine, elle, va toujours augmenter le flux de dopamine, mais en empêchant la dégradation de la monoamine, c'est-à-dire toute la dopamine qui est produite ne sera pas dégradée par la monoamine. C'est donc un inhibiteur de la monoaminooxydase, en gros. La cocaïne et les amphétamines, donc les stimulants, viennent bloquer la recapture. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de recapture. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le neurone? Il dit, ah merde, j'en reçois pas, c'est que j'en fournis pas assez. Donc vas-y, bon, bourre un peu, bon, c'est les Stakhanovich en gros, hein, là, les neurones. Et vas-y, je t'en fabrique des grandes quantités. Et les amphétamines, elles aussi, facilitent la libération de la dopamine, hein, etc. Voilà, donc tout concourt dans cette famille de grande famille de stimulants et de stupéfiants, ça concourt à produire toujours plus de dopamine. Et donc la dopamine, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bien entendu aller surexciter le noyau accumbens, bien entendu. Alors bon, voilà des cours, mais laissons-les tomber, hein, où on montre les pics. Bon, là aussi, c'est très gentil, mais c'est un conditionnement. On s'aperçoit que voilà, on a des activités électriques. Je passe un peu pour insister juste sur la relation entre quelques noyaux. Alors voilà, l'aire tegmentale ventrale qui donne la dopamine et qui projette où ça? Sur le noyau accumbens, sur le septum, sur le cortex préfrontal et sur l'amygdale. Voilà, alors là, vous connaissez déjà les termes. Hein. Alors, l'amygdale, bien entendu, c'est le champion des émotions. Hein. C'est la plaque tournante, le passage obligé, bref. Noyau accumbens, ça va être le béaba du circuit de la récompense, c'est-à-dire quand on fait un acte, on le fait en vue d'un objectif, mais cet objectif, ben, il faut qu'il soit quand même payant. C'est la question de la récompense. C'est comme ça qu'on a introduit le conditionnement opérant en appuyant sur la pédale, c'est-à-dire que l'animal soit actif, et bien entendu, il est d'autant plus actif qu'il touche une récompense. Et donc, au bout d'un moment, il a envie d'avoir la récompense, ça le motive, etc. Et comment c'est possible? Eh bien, c'est simplement parce que non seulement on a le noyau accumbens, mais qu'en plus on a le septum, et le septum, c'est le grand régulateur des émotions. Voilà, c'est-à-dire, des fois, le système s'emballe, bon, c'est une passion extraordinaire des ventes, puis petit à petit le sujet dit, oh, mais quand même, je déconne un peu, peut-être j'en ai trop fait, ou bien je me suis peut-être laissé emporter par la colère, ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, le septum dit, bon, ben, t'as qu'à t'excuser, quoi, en gros, hein, ou, oh, ben, voilà, c'est le médiateur, en quelque sorte. Hein. Et bien entendu, ce septum médiateur, il va être complètement dégommé par les stupéfiants, bien entendu. C'est-à-dire, on n'a plus de régulation, c'est-à-dire, il n'y a plus de jugeote de dire, mais chercher tout le temps, ce qu'on appelle le craving, chercher tout le temps et de la dope et de telle et telle activité dont on parlera demain, en gros, ben, c'est pas raisonnable, quoi. Passer son temps à ça, appuyer sur une pédale, c'est pas raisonnable non plus. Bon. D'actualité, mais enfin bon, cortex préfrontal, ben là, c'est justement là où l'individu pense. En tout cas, les humains, c'est là notre personnalité, elle est essentiellement, elle réside dans le cortex frontal. Donc c'est un dialogue en permanence de dire, bon là, je me suis laissé emporter, quoi. Hein. C'est l'ubris, en gros, hein, par définition, l'ivresse, quoi, en gros, c'est-à-dire le truc qui a pété là, l'écran, quoi, en somme. Alors ça, c'est le béaba des structures qui vont être indispensables. Et puis progressivement, on s'est aperçu que c'était des boucles qui se renforçaient mutuellement jusqu'à perdre des pédales, si j'ose dire. Hein. Et voilà, l'aire tegmentale ventrale, vous la voyez ici, là. Et elle va bien entendu projeter, elle est là, l'aire tegmentale ventrale, elle va bien entendu projeter sur le septum, sur le noyau accumbens, sur le cortex frontal. Mais en retour, le cortex préfrontal va reprojeter sur le septum, va reprojeter sur le noyau accumbens et également sur
l'amygdale, bien entendu, puis etc. Vous avez tout le temps des boucles, ce qu'on appelle des boucles étranges, finalement. Au bout de 3 tours, on ne sait plus par quoi on a commencé, on ne sait plus reconnaître la cause ou la conséquence, quoi, en gros. C'est-à-dire, donc, c'est le principe du fonctionnement. Et donc, c'est ça qui s'emballe dans la question des stupéfiants, en gros, des addictions. C'est que la récompense, c'est ici, il fonctionne à base de cette dopamine, et donc, bien entendu, il n'y a plus de régulation possible. Alors voilà, en gros, peut-être le texte qu'il faut lire. Les neurones dopaminergiques de l'aire tegmentale ventrale ont des projections vers le noyau accumbens, le cortex préfrontal, le septum, l'hippocampe et l'amygdale. Ces aires renvoient des informations en retour vers les principaux centres régulateurs des émotions, noyau accumbens et amygdale, de la mémoire hippocampe ou des fonctions physiologiques, endocriniennes, l'hypothalamus en quelque sorte. Voilà, donc du coup, c'est la dopamine qui est finalement le vecteur essentiel par ces projections, ces fibres de neurones qui fabriquent la dopamine et qui vont irriguer les différents noyaux qui sont ici en quelque sorte. Alors voilà, une reprise de la même chose, en gros, et peut-être un petit peu plus de détails sur, je prends la peine si vous voulez, de vous les repointer. Donc, l'aire tegmentale ventrale, réaction des stimuli associés à la nourriture, à l'activité sexuelle, etc. Donc, hein, voilà la fonction donc, de la dopamine qui va piloter. Le thalamus, bien entendu, c'est un des éléments qui va gérer et la perception et la motricité et les systèmes endocriniens par le biais de l'hypothalamus en gros et l'hypophyse en gros. Le noyau accumbens, évaluation de la valeur hédonique d'une action qui donne du plaisir en quelque sorte, motivation pour effectuer cette action. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien la motivation à reproduire le comportement ou la prise de la substance. C'est toujours un comportement de toute façon. Voilà, hein. Évaluation de la valeur hédonique d'une action, motivation pour effectuer cette action. Voilà, c'est bien ça la fonction essentielle. Et le cortex préfrontal, focalisation de l'attention. Prise de décision. Voilà, c'est-à-dire, bon, au bout d'un moment, si vous avez votre esprit qui s'est rétréci à la seringue, à la poudre, à, je sais pas quoi, le rituel de faire chauffer dans une cuillère, vous pensez plus à rien d'autre, hein. Et donc, le seul problème, c'est d'avoir la poudre et donc de procurer de l'argent et donc, du coup, d'être prêt à tout, quoi. C'est ce qui se passe, j'ai déjà dit, à Marseille et dans les différents lieux. Kalachnikov, machin. Voilà, c'est cette logique et la prise de décision. C'est-à-dire, bon, si vous ne voyez plus que ça, ben, vous êtes prêt à tout, à tuer père et mère, quoi, en gros, pour vous procurer de l'argent. L'hypothalamus, genèse des comportements, contrôle de survie, en gros. L'amygdale, évaluation du caractère plaisant ou non d'une expérience, bien sûr. Si c'est plaisant, ben on va le reproduire, mais à ce moment, en plus grande quantité, puisque l'effet va diminuer.
Hippocampe, enregistrement des souvenirs associés à une expérience.
Alors là, on a à peu près tous les éléments pour pouvoir comprendre comment se bâtit une expérience hédonique qui va peut-être se pervertir progressivement en laissant place le plaisir ou le bonheur de la première fois en un mal-être de plus en plus intense qu'il va falloir corriger.
Et là, tout ce qui est en bleu, correspond à la dopamine, tout ce qui est en violet, en retour, là, c'est le glutamate et puis d'autres neuromédiateurs. Je vais peut-être passer là-dessus parce que c'est l'action des drogues,
je l'ai déjà un petit peu expliqué. Et puis là, juste pour vous dire, bien entendu, c'est l'état de stress. Le mal-être, c'est pas autre chose qu'un état de stress immense, quoi, et de plus en plus catastrophique,
qui va jouer avec tout le système neuro-endocrinien. Et donc, bien entendu, voilà. Alors là aussi, là c'est au niveau moléculaire qu'on voit comment ça fonctionne. les différentes substances dont j'ai parlé qui provoquent des libérations de dopamine, qui viennent saturer les différents récepteurs, D1, D2, D3, et puis toutes les réactions que ça peut engendrer avec différentes phosphokinases, par exemple. Et puis ensuite, on vient toucher sur le génome, hein, sur l'expression des gènes eux-mêmes. Hein, le Cephos et le Jun et Kreb, etc., modifient complètement les séquences. Et donc, du coup, on commence à comprendre qu'on modifie le fonctionnement du neurone. Et donc, du coup, ça, la perversion, c'est que c'est pas neutre de forcer avec ces substances. Si on le fait modérément pour l'alcool et pour beaucoup d'autres choses, c'est peanuts, quoi, on peut résister, hein, deux verres, il n'y a pas de souci, quoi. Mais quand c'est le binge drinking, tous les jeudis, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches, et toutes les semaines, qu'on est un grand gagnant de 12 ans, ça va à 13, 14, 15, bon, à 18 ans, bon, c'est sûr que le cerveau est plus là, quoi. Parce que, là, voilà, tous ces jeunes ont été ratatinés jusqu'au trognon, quoi. Voilà. Vous faites la même chose à 40, bon, bah, de toute façon, et à 60, bon, c'est pas un drame, quoi. Mais de toute façon, on a vu d'autres, et puis d'abord, on sait, on connaît le mode d'emploi, en gros. Alors bon, voilà, ça modifie complètement les ramifications des neurones, hein, voilà, par exemple. Alors voilà, les opiacés, ben ça les rend squelettiques. Et puis la cocaïne, alors ça buissonne, voilà, c'est pour vous dire. Et ça, on le comprend par l'action, par les gènes, en quelque sorte, où ça va booster soit le buissonnement, soit l'assèchement progressivement. Et du coup, ben, voilà, pas de panique, hein, mais bon, c'est sérieux, quoi. Hein. Alors bon, je l'ai déjà un petit peu dit, je passe, et là, on peut aller dans les détails, de voir encore à nouveau l'aire segmentale ventrale, là, voilà, et puis le noyau de la cumbens, voilà, des neurones à dopamine qui sont en cheville avec les autres neurones, donc acétylcholine, mais aussi endorphine, comme on voit, et puis neurones à GABA. Vous voyez, c'est-à-dire, bon, chacun, c'est un mobile de Calder, voilà, et chaque famille de neuromédiateurs régule les autres neuromédiateurs, et donc, du coup, on les a ici, là, voilà, le neurone à GABA va inhiber le neurone de dopamine, mais les endorphines vont venir moduler le GABA, en gros, voilà, et puis, on a tous les autres, c'est une chaîne qui va retentir là-dessus, bien sûr. On retrouvera, on reprendra, hein, à tête reposée, parce que j'ai peur d'être trop bavard. Voilà, on a également les différents éléments ici. Voilà, là vous trouvez tout, la bande à mandrin, là, hein, vous les avez tous, ils sont là, sur le neurone à dopamine. Et on voit bien que les neurones à dopamine sont un peu la plaque tournante de l'ensemble des autres neuromédiateurs. Que ce soit pour la morphine ou que ce soit pour les barbituriques et pour la cocaïne et tout le reste. Voilà, bon. Voilà, alors je vous lis juste la légende qui accompagnait ces schémas fort, fort bien faits. Hein. Les opiacés se fixent sur les récepteurs spécifiques des neurones à GABA. Voilà les neurones à GABA qui sont là. À la place des opiacés endogènes, à la place des endorphines, en gros. Cette fixation freine l'activité des neurones à GABA, qui habituellement inhibent les neurones à dopamine. Et voilà, donc le GABA inhibe les neurones à dopamine, mais comme les opiacés viennent se fixer sur le GABA et inhiber l'inhibiteur, ben bien entendu, ça veut dire que le neurone à dopamine a l'abri sur le coup et cravache comme d'habitude. Et là, il a beaucoup d'allant. Et la cocaïne va jouer en sens inverse et va exciter non pas le GABA, mais le glutamate et donner cet effet stimulant. Alors, le voilà, là, donc toujours notre neurone à dopamine avec sans drogue et avec drogue, donc le tabac qui inhibe l'action de l'enzyme MAO, encore une fois, la cocaïne, les amphétamines, ou bien là, bon, là il y a peu d'action, alors que là, regardez, là, les éclairs qui vont cracher là. La légende, la cocaïne et surtout le crack. Mais la cocaïne n'est pas innocente du tout, hein. Bon. Mais plus particulièrement le crack, je dis la dépendance de ce qui se dit, c'est en une pipe de crack où je pouvais être accro, quoi. Hein. Donc avec la cocaïne base, c'est un petit peu moins féroce, c'est intermittent, mais à long terme, on l'est également. Donc la cocaïne et les stimulants, c'est-à-dire les amphétamines, bloquent le fonctionnement du système de la recapture de la dopamine. La nicotine se fixe sur les récepteurs de l'acétylcholine qui stimule les neurones à dopaminergiques, c'est-à-dire qui travaillent avec la dopamine. Voilà, alors bien entendu, il faudrait avoir un peu de temps pour voir ce que ça implique d'un point de vue comportemental. Alors voilà, par exemple, le comportement de prise de drogue, là, qui est central, là, ben, on voit que tout converge dans sur ce compartiment. Hein, alors, on va en prendre quelques-uns. Ben, voilà la tolérance. Voilà, à force de prendre cette substance, une tolérance s'installe. Si jamais on s'arrête, alors à ce moment c'est le syndrome de sevrage, avec les conséquences négatives, physiologiques, psychologiques et sociales, qui vont encore conduire, enfin, le mal-être du sevrage va conduire à reprendre la substance. Bien entendu, on va le prendre par là. Facteurs individuels, troubles psychologiques, tempérament, vulnérabilité au stress, hein, qui vont venir en quelque sorte faciliter l'effet de la récompense, du plaisir, du soulagement, de la réduction d'une tension, mémorisation, et donc on revient à reprendre la substance et on va recommencer comme ça un certain nombre de fois. Et puis on a les facteurs socioculturels et environnementaux qui vont donner une expérimentation, une première, un usage occasionnel, et puis les interactions entre drogue et organisme qui va donner la récompense, qui va donner la mémorisation, et puis un coup de mou, un coup de blues, hop, on se dit, ah tiens, si je faisais un petit joint, ou je ne sais pas quoi, hein, si je retrouvais mes copains, et puis on retrouve les copains, et ah ben tiens, on fait circuler. Voilà, vous retombez pratiquement tout le temps dans le système. Et puis là, bien sûr, vous avez le système qui se renforce. Et puis, vous avez des prédispositions génétiques, éventuellement, mais enfin bon, tout est génétique, du coup, sevrage, et puis on recommence. Voilà, et c'est toujours bouclé, et ce qui est essentiel, c'est ce comportement de prise de substance. Et ce qu'on va voir, c'est que ce système peut se caler, là, demain, hein, c'est que ce système peut se caler sans substance, justement. Et donc, il va falloir comprendre quel est le switch. Ben, le switch, c'est que c'est le même circuit de la récompense qui est mis en œuvre. C'est-à-dire l'ertegmental, ventral, et puis le noyau accumbens, c'est le cortex préfrontal. Et il suffit que ça donne un peu de plaisir une fois, et vous recommencez ad libitum. Voilà, alors, je l'ai un peu évoqué déjà la fois précédente, mais cette fois je l'ai encore évoqué, c'est-à-dire, voilà, vous avez votre humeur, là, bien-être, mal-être, hein. Vous avez une ligne de base, c'est-à-dire ce que vous vivez au cours du temps, normalement, si j'ose dire. Bon, vous prenez de la substance, hein. Ça vous donne donc une montée de bien-être. Et puis vous apercevez qu'on revient à la ligne de base, puis là, il y a une petite dépression. Donc il peut être... complètement, qui peut passer inaperçu, et puis vous recommencez. Alors là, on s'aperçoit que c'est un peu plus dur, il faut augmenter un petit chouïa pour arriver, même pas au même, vous prenez la même prise, hein, mais, et donc du coup, vous décollez, mais vous restez au milieu, à mi-chemin, en quelque sorte. Par contre, le prix à payer est plus fort, dans le mal-être. Alors, bon, ben, vous en prenez une, et vous avez un petit boost. Prends, mais vous replongez un peu plus, et puis la quatrième, ben, elle est en dessous du niveau de la mer. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est un truc qui, au fur et à mesure, n'est pas conforme, parce qu'on ne revient pas à zéro. Donc, du coup, progression d'une personne vers l'addiction. La prise 1 provoque une amélioration de l'humeur, puis l'équilibre se déplace pour aboutir à un état de mal-être. La drogue ne permet plus de recouvrer
l'état normal.
Voilà, alors, donc ça c'est les nouvelles représentations qu'on a. Alors bon, là ça c'est les différents paramètres qui vont faire que la personne va être plus ou moins sensible à recommencer son comportement de prise de stupéfiants. Il y a le produit, bien entendu, tous les produits ne sont pas équivalents, hein. Il y a le contexte, et puis il y a la personnalité, et chaque fois il y a encore deux autres éléments. Alors le produit, voilà, la dimension aléatoire du jeu semble apporter des réponses aux questions existentielles que se pose le joueur pathologique. Alors je mords un peu sur la prochaine fois, mais ça explique bien comment ça se passe, parce que ça peut être le jeu de la seringue, ou le jeu du joint, ou le jeu de la cigarette, ou le jeu du verre, ou c'est le comportement. Recherche de stress répété, excitation due à la libération d'adrénaline, de noradrénaline, plaisir lié à la libération de dopamine. Voilà, en gros, le produit a ces deux dimensions, une dimension biochimique et puis une dimension plus psychologique, hein, si vous voulez. Le contexte, déstabilisation d'un schéma familial, remise en question des repères relationnels, les stimulations spécifiques, alors, du jeu là en l'occurrence encore, casino, jetons, roue qui tourne, déclenche le besoin de jouer. Il y a aussi toujours deux éléments, et puis personnalité en quête de sensations fortes et de nouveautés. Des gènes, notamment ceux qui codent certains types de récepteurs de la dopamine, seraient en cause, plus ou moins sensibles à telle et telle chose, et que du coup, on va avoir toujours la possibilité de, finalement c'est le libre arbitre, hein, de décider si on recommence ou bien si on s'arrête, en disant bah oui, bon, j'ai craqué 100 euros, bon, ça va, hein. Que là, oh non, je vais me refaire, oui, bah là vous êtes cuit, hein, ça c'est sûr, hein. Et donc du coup, que ça soit avec produit ou sans produit, on va avoir toujours cette même logique qui va se mettre en route. Alors, ce qui est important dans ces nouveaux schémas, c'est de bien mettre en exergue le contexte. C'est-à-dire, la personne, le produit, mais le contexte, là, simplement, vous tombez dans le contexte, et à ce moment, des instincts recommencent. Exactement, le plus simple, c'est de voir la cigarette. Voilà, vous pouvez vous arrêter de fumer, après avoir fumé longtemps, vous pouvez vous arrêter, et puis il y a un copain qui vous fume sous le nez, vous mettez à saliver, bon, tu peux m'en passer une, voilà, bon, alors bon, oui, bien sûr, alors là, la seule tactique, c'est d'en fumer une et de la savourer, et puis après, quand il vous en offre une autre, il dit, ah non, je t'ai demandé une. Et là, ça marche à tous les coups parce que vous n'allez pas au-delà. Mais si jamais vous en prenez une deuxième, vous êtes trempé, là. Tac. C'est-à-dire, vous avez mis le doigt dans l'engrenage du contexte. Ce contexte peut vous déclencher l'envie de faire le comportement, d'agir, mais vous devez avoir le cortex préfrontal qui bloque en disant « une, mais pas plus ». Parce que ça, c'est à ma portée. Si jamais je dérope, je sais que je peux pas. C'est comme les tartines, quoi. Hein. Une ou deux, mais pas trois. C'est comme les tablettes de chocolat. C'est bon, il y a une limite. Voilà. Et là, on sent bien qu'on est dans les états limites. Voilà. C'est-à-dire, c'est une nouvelle pathologie, relativement. Avant, on avait les névroses, là, puis les étudiants et les intellectuels, et puis vous aviez quelques personnes qui étaient psychotiques, et puis maintenant, on s'aperçoit que les gens passent de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle les états limites. La névrose très peu, la psychose beaucoup, et bon, on passe de l'un à l'autre. Eh bien, c'est ça, c'est subtil, mais ça passe à tout. Et bien entendu, les toxicomanes ou addictés sont en gros les grands contingents d'états limites. Voilà, on peut les voir comme ça, de ce point de vue, de toujours être en train de jouer, en quelque sorte, avec les limites. Bien entendu, à partir de là, on est sûr de perdre. Bon, ben, en guise de conclusion, les effets pervers, donc, hein, je vous en donne juste quelques-uns, j'en ai déjà bien donné. modification des neurones et de leurs récepteurs, et de la sensibilité des récepteurs. C'est à peu près, ça reprend à peu près tout ce que je vous ai montré. Et puis surtout, surtout, pour moi en tout cas, blocage des sécrétions des opioïdes endogènes. Ou des peptides d'une façon plus générale, parce que pour la cocaïne, je ne sais pas exactement, mais en tout cas pour les opiacés, c'est sûr que ça bloque les opioïdes. Et que du coup, bon, puisque vous avez des opiacés, donc des opioïdes exogènes, c'est pas nécessaire d'entretenir une danseuse, quoi, qui coûte très cher, qui donne du plaisir. Mais donc du coup, la conséquence de ça, ça veut dire que vous n'avez plus de source de plaisir autonome, et vous êtes dépendant de l'approvisionnement externe. Or, la grande découverte des opioïdes endogènes, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir des opiacés de l'extérieur, parce que nous avons les ressources pour le plaisir et le bonheur en nous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Mais si vous les oblitérez en prenant des substances externes, bien entendu, vous êtes en train de vous faire raquiri. Ça, le gros truc. Alors, deuxième point, c'est la modification de la régulation de l'humeur, et des émotions même. Donc, le septum ne peut plus jouer son rôle, il est déconnecté. Donc, le plaisir est diminué, mais le déplaisir est augmenté, de même que le mal-être, en gros. Et donc, le mal-être vient remplacer le plaisir de vivre, en gros. Et ça, c'est épouvantable, quoi, d'un point de vue du comportement, c'est la modification du comportement de recherche du produit, des sources de satisfaction, des relations sociales, du but de l'existence, des espoirs de sortir de cette aliénation et de cet état addictif. Donc là, c'est ce que je vous disais, là. On va d'un pôle de santé à un pôle de malade, mais vraiment, maintenant, on considère que le cerveau a été détérioré par l'action prédatrice des stupéfiants. Et donc, du coup, on passe du plaisir à la dépendance et à l'addiction. Bon, ben voilà, il faut que je m'arrête, je crois, parce que